J'aimerais prier encore pour commencer mon message. Seigneur Jésus, donne-moi les paroles qui puissent bouleverser nos cœurs, que tu puisses parler à nos cœurs et à notre intelligence aussi. Amen. Bonjour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre. Alors je suis en train de rechercher, ouais, je pense qu'il y a quelques personnes qui ne connaissent pas. Je suis Walter Alexandre, je suis marié à Laetitia, nous avons 3 enfants et je suis un évangéliste. Ne pas confondre avec un évangélique. Vous êtes pas mal d'évangéliques, mais il y a aussi pas mal d'évangélistes. Ce sont des personnes, les évangélistes, qui, à travers notre société, notre culture, font des ponts pour apporter Dieu. Comment on fait pour apporter Dieu à une société qui ne cherche plus Dieu? C'est tout un programme. Hein. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 2 thèmes complètement différents. Alors pas de panique, ça va bien se passer, vous allez comprendre pourquoi. Allez, on va commencer par mon premier thème. Allez, pour ça, il faut que je vous raconte l'histoire de mon garagiste. Alors, il y a quelques temps en arrière, là, j'étais allé pour donner ma voiture à mon garagiste, et puis au moment où je devais payer, il me regarde droit dans les yeux, il me fait sa tête de chien battu, et il me fait « S'il vous plaît, vous pouvez me mettre 5 étoiles ?» Sérieux ? Je suis venu juste pour faire un accoudoir, hein, il n'y avait rien de fou. Hein. Et ça m'a fait penser par la suite à nos églises. Ça vous est déjà arrivé de sortir du culte en vous disant « Bon, là, le message, il n'était pas foufou. Hein. » Ou alors la louange, trop lent, trop rapide, trop fort. Et finalement, c'est comme si vous sortiez du culte en mettant des étoiles, au moins dans votre tête. Hein. Alors aujourd'hui, ce matin, combien vous mettez d'étoiles à l'église évangélique de Bouxwiller? Oh, Denis, mais 5. Merci, Denis. Alors, j'ai regardé sur Maps. Hein. Alors sur Maps, on est à 4,5 étoiles. C'est sur 5. Hein. Et 4,5 parce qu'il y a une personne qui a mis 1 étoile, mais j'ai pas compris parce que son commentaire il était super positif. Donc je pense qu'il n'a pas compris l'idée des étoiles. Et moi, je pourrais vous supplier en disant « S'il vous plaît, mettez-moi des étoiles. » Je pourrais vous faire ma tête de chien battu. « S'il vous plaît, 5 étoiles. » Mais en réalité, vous comprenez que c'est déjà bizarre par rapport à mon garagiste. Mais si vous sortez du culte avec cette idée, eh ben, si vous sortez du culte avec l'idée « c'était pas bien » ou « c'était bien », etc., et que vous mettez au moins dans votre tête des étoiles, eh ben, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'Église avec un grand E, cette communauté. On ne se réunit pas le dimanche matin pour mettre des étoiles à un message ou une louange. On est là pour se mettre ensemble, tous ensemble, pour dire à Dieu combien il est grand, combien il est amour et combien on l'aime en retour. Et en retour, Dieu nous parle à travers le message, à travers la louange, à travers vous autres ici. Chacun personnellement dans son cœur. Et combien j'ai déjà entendu le Seigneur à travers des messages ou à travers certains d'entre vous. L'Église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de la communauté, combien c'est important. Et j'aimerais voir avec vous, est-ce que dans l'Église, dans cette communauté, est-ce que nous sommes égaux ? Dites-moi, est-ce qu'on est égaux tous ensemble, ici dans l'Église? J'attends une réponse. C'est devant qui? Devant Jésus? Oui! Pardon? Chacun est unique. tu vas trop vite. Tu vas trop vite, tu es en train de gâcher mon message. Mais c'est très bien. Oui, nous sommes égaux. La Bible nous le dit, hein, il n'y a plus de juifs, plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres, il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Mais maintenant je vous repose la question, et Albert tu pourras me répondre, pas tout de suite. Hein. Donc maintenant je vous repose la question, sommes-nous égaux dans la communauté point de vue des responsabilités ? Ah, c'est déjà différent, hein ? Ben non, pas vraiment. Nous avons des anciens, nous avons des conseillers, et par conséquent, nous avons carrément un président qui a été élu. Et il y en a qui sont responsables d'enfants, responsables de travaux, responsables de ménage. Et nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités. Certains n'en ont pas, par exemple. Et on peut décliner tout ça déjà aussi à travers ce que le Saint-Esprit nous donne. Nous avons certains qui ont des dons d'enseignement, d'autres des dons de pasteur, des dons d'évangéliste. Donc nous ne sommes pas égaux. Et comment, d'après vous, on peut définir nos rapports dans notre communauté ? On est complémentaires. Et c'est vraiment important, hein. On ne peut pas tous être des évangélistes. Vous me voyez, des mois partout ici, c'est horrible. Ça serait vraiment le désordre total dans cette église. Mais la Bible nous dit, à un moment donné, il y en a certains qui sont des bras pour travailler, d'autres des jambes pour avancer, d'autres des oreilles pour être à l'écoute. Et c'est comme ça que le corps de l'église se forme. Et du coup, autre question, qui est la tête de l'Église ? Jésus. La Bible est claire, hein, le seul et vrai chef de l'Église, c'est Jésus, c'est Christ. Personne d'autre n'est le chef de l'Église. C'est lui qui nous emmène. C'est lui que nous venons adorer. Ok, j'ai encore une question. On vient de dire que Jésus est notre chef. Alors, qu'est-ce que Jésus fait pour son Église ? Et qu'est-ce qu'il a déjà fait pour son Église ? À votre avis ? Tu disais ? Il bâtit son Église. Comment il l'a bâtie ? Il pose, oui, mais comment il pose ? En ajoutant des pierres vivantes, oui. Pardon ? Il édifie, effectivement, oui. On voit que Christ est là, il y a de l'amour pour l'Église. Il aime son corps, c'est-à-dire qu'il aime l'Église. Il s'est sacrifié. Je pense que Karine voit où je veux en venir. Ok. Oui, j'ai rien entendu. C'est la révision, mais je pense qu'on va différer après. Et donc, Christ, il s'est sacrifié pour son Église, et Christ prend soin de son Église. Amour, sacrifice, soin. Et la réponse de l'Église, eh ben, elle se soumet à Christ. Tout cela, on le retrouve dans Éphésiens, et c'est le texte qu'on va lire un peu plus tard. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que Jésus est le chef de l'Église ? Normal, on ne va pas adorer quelqu'un d'autre, et qu'il a de l'amour pour cette communauté, aujourd'hui, ici présent. Il a de l'amour pour vous et pour tous les croyants qui se réunissent. Il aime le corps de l'Église, et c'est parce qu'il a vu combien ont pataugé dans la misère, combien on était remplis de péchés, chacun d'entre nous, combien on n'y arrivait pas, et que finalement on s'éloigne toujours encore un peu plus de Dieu. Ah Seigneur, Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Comment je fais, Dieu, pour me présenter à toi, couvert par toutes mes fautes ? Toi qui es un Dieu tellement saint, sans faute, comment je fais pour revenir à toi ? Il n'y a qu'une seule façon, le sacrifice, pas vous, le sacrifice d'un innocent qui n'a jamais péché. Un sacrifice, un innocent qui doit mourir pour toi et pour moi. Et c'est pire que ça, c'est que cet innocent, il a été maltraité, il a été torturé, il a été crucifié injustement pour toi et pour moi. Mais c'est encore pire que ça. C'est Dieu lui-même qui vient dans un homme, Jésus, pour nous sauver. Et on finit par le tuer. Mais en réalité, il s'est laissé mourir par amour. Car c'est la seule façon pour toi et moi de venir devant un Dieu et ne plus avoir de tâches, et ne plus avoir de fautes, à travers le sacrifice et le sang d'un innocent, Jésus. Alors oui, je voudrais que vous puissiez imaginer, alors même si c'est difficile, mais essayez d'imaginer ce sacrifice immense que Christ a fait. Laetitia et moi, on a été à Colmar avant-hier, on était au musée Unterliegen, on a regardé le retable d'Isenheim et on voit combien Christ a souffert sur cette croix pour moi, par amour, qui s'est sacrifié pour son Église. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La mort, c'est la conséquence de notre désobéissance à Dieu. C'est ce que la Bible appelle le péché. Mais Jésus n'a jamais désobéi à Dieu. Jésus n'a pas de péché. Par conséquent, la mort ne pouvait pas le garder. Et Jésus est revenu à la vie 3 jours après. Et maintenant, il prend soin de son Église. Ça ne veut pas dire que tout va bien aller. On a des difficultés, des fois dans la communauté, des fois ça se fight, ça se confronte. Mais Jésus est là et ça me rassure. Et je peux lui faire confiance. Je sais que même si la mort arrive, eh bien, il nous aime et il prend soin de nous et de son Église. Voilà, Jésus, le chef de l'Église, qu'il aime de tout son cœur au point de se sacrifier pour elle, c'est-à-dire pour toi et moi, et que maintenant il prend soin avec amour, avec patience et avec fidélité. Et nous, en tant qu'Église, on se soumet à Jésus. Bon, ok, la soumission, souvent dans notre contexte actuel, dans notre époque, eh ben, c'est mal compris. On pense tout de suite que ça y est, Jésus sort le fouet et veut nous soumettre par la force. Mais non, 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 on se soumet volontairement parce qu'on l'aime, parce qu'il a fait ce sacrifice qu'il a fait pour moi et toi. On ne peut que l'aimer en retour et lui dire « Oui, Jésus, je sais que toi, tu connais bien plus de choses que ma pauvre intelligence. Alors oui, je me soumets respectueusement à toi parce que personne d'autre peut me sauver de ma misère. » Et si dans votre vie, vous n'avez pas encore fait ce choix de Jésus, je vous encourage tellement à le faire. Il n'y a que lui qui puisse vous sauver de votre misère. Il n'y a que lui qui nous permet de retourner près de Dieu sans tâche et sans faute. On ne craint plus la mort. Alors on passera quand même par la mort, mais pour avoir un nouveau corps, sans tâche, sans péché. Alors ce matin, si tu découvres pour la toute première fois qui est Jésus, si ce matin tu découvres toute l'ampleur de son sacrifice, et si ce matin tu as envie de donner ton cœur à Jésus, viens me voir par la suite, qu'on puisse prier ensemble, parce que c'est tellement merveilleux Et c'est tellement fou de suivre Jésus tout au long de sa vie. Ouais, Jésus. Nous avons Laetitia et moi, avant-hier, été à Colmar parce qu'on était à l'enterrement de notre vieux pasteur. Celui qui nous a permis de devenir celui qu'on est actuellement, Henri Hartnagel. Et il y avait ce merveilleux verset affiché à l'église qui dit « Et Jésus se tint sur le rivage ». Oui, quel moment triste, et en même temps on sait que Jésus se tient sur le rivage. Et ça me réjouit de passer l'éternité bientôt à pouvoir discuter avec Henri, à pouvoir discuter avec chacun d'entre vous. Ça me réjouit de prendre l'éternité et d'avoir Jésus à côté de nous. Waouh ! Et j'ai envie de connaître les gens que Evie a rencontrés, par exemple en Afrique, de pouvoir discuter avec eux et se prendre l'éternité à nous réjouir ensemble. Est-ce que ça vous dérange si je reprends ma prédication ? On va reprendre du début. Je vais passer les présentations. Alors, on va reprendre du début, donc si ça ne vous dérange pas, parce que je pense que vous n'avez rien compris, donc on reprend. D'accord ? Alors, je reprends ma prédication. Alors, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous deux thèmes différents. Alors, pas de panique, hein, ça va bien se passer, vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va commencer par le deuxième thème. Et pour ça, il faut que je commence par vous raconter l'histoire de mon garagiste. La dernière fois, j'ai mis ma voiture en révision, hein, et au moment de payer, mon garagiste, il me fait sa tête de chien battu. Vous la connaissez ? Ouais ? Ah, bon, ok. Ne me spoilez pas tout, quand même. Et il me fait sa tête de chien battu, et il me dit, mais s'il vous plaît, vous pouvez me mettre 5 étoiles ? Et moi, ça m'a fait trop rire. Sérieusement, je suis venu pour un accoudoir, quoi. Il n'y a rien de fou. Et ça m'a fait tout de suite penser à nos familles. Ça vous est déjà arrivé de réfléchir à la famille en disant, bon, aujourd'hui, mon homme, il n'était pas foufou, hein ? Ou alors ma femme, c'est trop lent, c'est trop rapide, c'est trop fort. Et finalement, c'est comme si vous mettez des étoiles, au moins dans votre tête. Alors combien, aujourd'hui, vous mettez d'étoiles pour votre famille ? Un joker. Tu crois vraiment que tu as le droit d'avoir un joker, toi ? Alors moi, j'ai regardé sur Maps et non, il n'y a pas encore d'étoiles pour les familles sur Maps. Je pense qu'il ne faut pas qu'on leur donne l'idée à Google parce qu'ils vont avoir de mauvaises idées. Mais moi, je pourrais vous supplier hein, en faisant ma tête de chien battu, en vous disant « Mettez-moi 5 étoiles pour ma famille, je suis l'homme parfait ». Mais en réalité, vous comprenez que c'est déjà bizarre par rapport à mon garagiste. Mais si vous avez cette idée de dire « ben ça c'est bien » ou « ça c'est pas trop bien », c'est-à-dire que vous commencez à mettre déjà des étoiles dans votre tête, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est la famille. Et quand je parle de la famille, c'est avec un grand F, la famille chrétienne, comme le voudrait Dieu. On ne se réunit pas en famille pour mettre des étoiles à un homme, à une femme ou à nos enfants. Bon, d'accord. Des fois, j'avoue que les enfants... Oh, non. On est là pour se mettre ensemble, tous ensemble, et dire à Dieu combien il est grand, combien il est amour et combien on l'aime en retour. Et en retour... Le Seigneur nous parle à travers l'homme, à travers la femme, à travers les enfants. Et ça, le plus souvent personnellement, dans nos cœurs. Et combien j'ai déjà entendu parler le Seigneur à travers mon épouse ou à travers mes enfants. La famille. Et je ne parle pas de la maison, hein, du foyer. La famille chrétienne, combien c'est important. Et j'aimerais voir avec vous, est-ce que nous sommes tous égaux dans la famille ? Alors, d'après vous, Et franchement, si vous avez suivi mon message, c'est que vous savez répondre. Oui, nous sommes à l'égalité. Grâce à Jésus, il nous le dit dans la Bible, il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. C'est dans Galates, hein ? Mais maintenant, je vais poser la question différemment. Sommes-nous tous égaux dans la famille, point de vue des responsabilités ? Non. Nous avons dans la famille l'homme, un prêtre et un leader bienveillant. La femme comme un soutien bienveillante. Les enfants sont là pour honorer les parents. Nous ne sommes pas tous égaux, car certains ont eu des dons dans la famille différents. La bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, mais ça peut aussi être la force, l'intelligence. Donc nous ne sommes pas égaux. Et comment, d'après vous, on peut définir nos rapports si nous ne sommes pas à égalité ? Vas-y Albert, nous sommes complémentaires. C'est vraiment important, hein ? On ne peut pas tous être des hommes dans la famille. Vous me voyez, moi, partout, c'est horrible, ça serait une famille en désordre total. Mais la Bible nous dit à un moment donné, il y en a qui doivent être un bras pour travailler, l'autre une jambe pour faire avancer, d'autres une oreille attentive. Et c'est comme ça que le corps de la famille se forme. Du coup, je vous pose encore une question. Qui est le chef de la famille ? Oh là, réponds à la question piège là. Jésus est le chef de chacun d'entre nous. Mais de la famille, c'est bien l'homme. La Bible est claire, le seul et vrai chef de la famille, c'est l'homme. Personne d'autre n'est le chef de la famille, c'est lui qui l'emmène. Ok, je vais encore vous poser une question du coup pour vous. On vient de dire que c'est l'homme le chef de la famille, mais alors qu'est-ce que l'homme fait pour sa famille et qu'est-ce qu'il a à faire ? Si, je crois que vous n'avez vraiment rien compris à mon message depuis le début. Ah, j'aime. Il a de l'amour pour sa famille. Il aime son corps, c'est-à-dire qu'il aime sa femme, étant donné qu'ils ne font plus qu'un seul corps. Il est prêt à se sacrifier pour sa famille. Et l'homme prend soin de sa famille. Et la réponse de la femme, eh bien, elle se soumet à l'homme. Le chef de la famille, l'homme, le chef de la famille, qui l'aime de tout son cœur au point de se sacrifier pour elle, c'est-à-dire pour sa femme, pour ses enfants. Et maintenant, il en prend soin avec amour, avec patience, avec fidélité. Et vous, en tant que femme, on se soumet à l'homme. Alors, ok, la soumission, eh ben, c'est mal compris hein, dans notre époque, hein. Parce qu'on pense tout de suite que ça y est, l'homme sort le fouet et il veut soumettre par la force. Mais non, 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 on se soumet volontairement parce qu'on l'aime. Il est prêt à se sacrifier pour sa femme et ses enfants. On ne peut que l'aimer en retour et lui dire « Oui, toi homme, je sais que tu fais de ton mieux pour notre famille. » Alors oui, je me soumets respectueusement à toi pour t'aider à grandir et faire grandir notre famille. Alors cette famille chrétienne, elle est dans un monde idyllique ? Parce que quand moi j'ouvre les journaux, je ne vois pas beaucoup ça. Un jour, un vigile, un homme bon, remarque un autre homme dans le magasin en train de filmer discrètement sous les jupes des filles. Ce vigile le chope et malgré le fait que personne, malgré que la personne lui dise « Non, mais ça va, c'est pas aussi grave que ça », cet homme appelle la police. Et quand la police arrive et qu'ils auscultent le téléphone, l'horreur. Des centaines de photos, de vidéos d'hommes qui violent sa femme. Il droguait sa femme, il l'avait mise à son insu sur un site de rencontre et les hommes venaient payer pour la violer pendant qu'elle était inconsciente. Vous connaissez cette histoire, hein ? Ça s'est passé il y a quelques mois, on appelle cette affaire l'affaire Pédico, du nom du protagoniste. Mais également l'affaire des viols de Mazan. Mazan, c'est le nom du village où ça s'est passé, c'est juste à côté de Carpentras. On l'appelle comme ça parce qu'on s'est rendu compte que plus de 70 hommes sont venus et malheureusement la police n'en a chopé que 51. Parmi les 51 personnes, tous habitaient aux alentours. On a toute tranche d'âge, de 26 à 73 ans, tout milieu social, du maçon au cadre. Finalement, c'est monsieur tout le monde. L'affaire Pélico ouvre une brèche dans le débat sur l'homme et la masculinité. On se pose la question sur la capacité de l'homme à dévier. Cette affaire nous interroge sur nos repères moraux, la définition de la masculinité et la manière dont une culture de liberté sans cadre, parce qu'on n'a plus envie d'avoir ces cadres qui nous freinent, peut contribuer à des dérives profondément inquiétantes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats sociétals autour de cette affaire. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur l'état de la famille en France. Nous sommes dans un cadre où finalement les hommes délaissent une grande partie de leur responsabilité. Si votre famille va bien, c'est grâce en partie à vous les hommes. Mais si la famille est dysfonctionnelle, c'est à cause en grande partie à vous, les hommes aussi. Et Paul, l'auteur de pas mal de lettres de la Bible, le sait très bien. Et il nous le montre à travers une lettre qu'il a écrite à l'église d'Éphèse. Je vous lis une partie, mais observez bien, ce n'est pas pour rien que je vous ai mis avant en parallèle l'église, la communauté et la famille, parce que c'est ce texte qui nous explique tout ça. Pierre-André, tu peux nous l'afficher, s'il te plaît ? Et parce que vous révérez le Christ, c'est-à-dire parce que vous adorez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, par le bain nuptial. Il a aussi voulu se présenter, cette Église, à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. C'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Paul met autant l'homme là-dedans. Dans sa lettre, il sait que l'homme a entre ses mains le pouvoir de faire grandir sa famille ou le pouvoir de la détruire. Et aujourd'hui, cela n'a pas du tout changé. C'est toujours encore la même chose. Nous, les hommes qui rentrons tard du travail et qui délaissons l'éducation de nos enfants à nos femmes. Nous, les hommes qui voulons trouver des conquêtes féminines et délaissons notre premier amour. Nous, les hommes qui pensons que le foyer, c'est comme le boulot, où il faut écraser l'autre pour montrer notre toute-puissance. Nous, les hommes, qui avons mis Dieu de côté. Les journalistes, hommes de l'affaire Mazan, avaient même dû écrire une tribune pour dire que tous les hommes ne sont pas des violeurs, car les féministes les montraient du doigt, tous ces hommes, en disant que l'homme est toxique. Et vous comprenez pourquoi ? Les féministes en arrivent là parce que nous, les hommes, nous n'avons pas réussi à être à la hauteur avec nos épouses, avec nos enfants. Et quelle est la réponse des femmes ? Eh bien, s'il n'y a plus d'hommes pour éduquer nos enfants ou si nos hommes viennent et nous frappent, eh bien, moi, ça ne m'étonne pas que des mouvements de féministes se lèvent. Ça ne m'étonne pas que des femmes préfèrent fonder une famille entre elles à travers des couples homosexuels. Et ça ne m'étonne pas qu'on dit que l'homme est toxique. Et ça ne m'étonne pas qu'une femme préfère rester seule avec ses trois enfants alors que le mari est parti lâchement avec sa maîtresse. En même temps, le mouvement féministe à tort. Elles disent que l'homme est toxique, elles ont raison sur ce coup-là. Mais le problème, c'est que le péché ne touche pas que les hommes, ça touche aussi les femmes. Et le gros problème du féminisme, c'est qu'elles veulent diviser l'homme et la femme. Alors que ce n'est pas du tout le plan de Dieu qui a envie de les réconcilier. Pour certaines féministes plus light, elles ne veulent pas une division, mais une égalité stricte. Mais ça ne marche pas. Quand nous prônons l'égalité des sexes, on arrive dans la pratique à une forme de domination par les faits, presque toujours. Le couple homosexuel n'a pas raison. Car oui, c'est plaisant d'avoir un miroir devant soi, de savoir que l'autre ne nous battra pas ou que l'autre me connaît mieux qu'un homme, par exemple, me connaisse. Mais en même temps, ce n'est pas fait pour réconcilier l'homme et la femme. On est toujours encore dans ces divisions. Et le gros problème, c'est que notre société veut se libérer de toutes les contraintes familiales. Et par exemple, ben, on teste toutes sortes de familles. Et ça, vous le voyez de plus en plus, surtout si vous avez des enfants en bas âge et que vous allez à l'école, vous voyez beaucoup de familles différentes. Mais on veut aussi se libérer des contraintes de la sexualité, par exemple. On ne veut plus de cadre. Mais dans l'affaire Mazan, les féministes racontaient que c'était dû à un problème du patriarcat. Alors moi, ça me fait un peu rire, parce que je n'ai pas du tout cette vision-là. Je n'ai pas cette lecture-là. Ça n'a jamais effleuré l'esprit de certains féministes que la pornographie est partout présente et qu'au lieu d'aider l'homme à devenir meilleur, on le pousse encore plus dans son vice Eh bien moi, ça ne m'étonne pas qu'à la fin, l'homme a une image complètement déformée de la femme et de la sexualité. Mais ça, les féministes n'aiment pas l'entendre, car ça touche à la liberté. Et l'immense problème, ces valeurs du monde, eh bien tout doucement, elles grignotent également l'Église. Et au lieu d'être des témoins, parce que vous êtes chacun individuellement des témoins pour les autres de Christ, mais vous êtes également des témoins à travers votre couple, à travers votre famille, pour les couples du monde et pour les familles du monde qui ne savent pas et qui se battent encore à se dire « mais comment on fait pour être un couple correct ?» Je ne dis pas qu'il y a des couples qui sont très bien et qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais vous, vous êtes aussi des lumières pour ça. Et le gros problème, c'est que la culture vient grignoter tout doucement la culture de l'Église, ce que Dieu nous donne et nous enseigne. Et qu'à la fin, on commence à être d'accord. Et qu'à la fin, on trouve que c'est normal de baptiser, pas de baptiser, de marier des couples homosexuels, par exemple. Et on ne comprend plus pourquoi Dieu a mis un cadre. La Bible nous donne un modèle pour la famille. Elle ne veut pas justement d'un bonhomme. Elle veut à la tête de la famille un homme bon, qui sache être patient, qu'il ait de l'amour, qu'il a ce sacrifice pour sa famille. La Bible ne veut pas une domination et une lutte de pouvoir. Elle veut une complémentarité dans le couple, une entraide à grandir ensemble. Elle ne veut pas que l'on place un autre Dieu au centre de la famille, mais au contraire qu'on puisse ensemble, en famille, honorer Dieu, faire un culte avec sa femme et ses enfants. J'ai donné plusieurs fois l'exemple, mais Laetitia et moi, par exemple, nous faisons l'effort tous les lundis matins de nous lever une heure plus tôt. C'est dur, hein, ça pique. Mais pour pouvoir lire la Bible ensemble et prier sans que les enfants nous dérangent. On essaye régulièrement d'ouvrir la Bible avec nos enfants, de faire un culte encore ensemble. Alors ça, c'est tout un chantier encore, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut encore faire, mais voilà, on essaye, parce que je sais où je veux emmener ma famille, mettre Dieu au centre et découvrir de plus en plus Jésus. Alors pour ceux qui se sont endormis, je vais récapituler. Alors c'est l'heure de vous réveiller, d'ouvrir les oreilles. Donc, vous, messieurs, vous êtes le chef de la famille. Mais comme tout chef, vous avez des responsabilités. Aimez vos femmes et vos enfants. Soyez patients, soyez fidèles et soyez prêts à vous sacrifier pour eux. Vous, les femmes, emmenez vos hommes prendre sa responsabilité. La soumission ne veut pas dire laisser faire n'importe quoi. Et la soumission respectueuse veut dire que j'aide mon mari à devenir meilleur, meilleur en Dieu, meilleur avec les autres. Mais si votre mari fait n'importe quoi, vous avez le droit et vous avez même le devoir de ne pas l'encourager à persister dans son péché. Vous comprenez ? J'ai entendu trop de témoignages de maris chrétiens qui sont là dans l'église, je ne dis pas que c'est dans notre église, mais qui sont là dans l'église à lever la main, à taper sur l'épaule et à encourager les autres chrétiens. Et quand ils rentrent et qu'ils ferment la porte, qu'il n'y a plus de regard sur eux, ils battent leur femme. Et combien j'ai entendu des témoignages comme ça. Alors si ce matin c'est votre cas, que ce soit par podcast ou que ce soit vous actuellement en présentiel, contactez l'Église, les responsables. Car la soumission, ce n'est pas rien dire, c'est au contraire agir pour que votre mari sorte de son péché. Les enfants, honorez vos parents de tout votre cœur. Apprenez aussi le bien qu'ils font. En réalité, ce que Paul nous donne dans cette lettre, ce n'est pas la famille. C'est Jésus et son Église qui montrent comment on doit vivre la communauté ensemble. Et le couple et la famille n'est finalement qu'un miroir de cela. Je vais vous laisser avec deux questions. Pierre-André, tu peux me lancer la musique. Alors sur fond musical, j'aimerais juste qu'on se prenne 5 minutes à pouvoir réfléchir à ces deux questions. Qu'est-ce que je fais pour faire grandir ma communauté, l'Église ici présente ? Et qu'est-ce que je fais pour faire grandir ma famille en Jésus ? Amen.